France Info.
Et donc à la une ce matin de ce premier journal, un grand quart nord-ouest qui est toujours en alerte orange, Christine nous le disait, de l'Île-de-France jusqu'à la Charente-Maritime en passant par la Bretagne. Témoignage dans un instant de travailleurs qui se préparent à faire face à la galère ce matin. À la une également, une enquête ouverte en France après l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse. Nous reviendrons sur la comparution historique de Nicolas Maduro, le président déchu du Venezuela, devant un tribunal de New York aux États-Unis. Et puis les JO de Milan-Cortina. C'est dans un mois tout pile, et vous allez l'entendre, les travaux ne sont pas terminés. C'est sans doute l'une de vos interrogations ce matin, si vous devez prendre la route dans l'un des départements concernés par l'alerte orange à la neige et au verglas de Météo France. Comment m'organiser ? À Orsay, dans l'Essonne, Julie-Marie Lecomte, vous avez rencontré des Français qui ont voulu anticiper.
Solution radicale, retenue par Ismaël. Il est chauffeur-livreur pour une grande enseigne de commerce en ligne.
C'est mort. Je travaille pas. Je vais pas venir.
Aujourd'hui, Ismaël se fait porter pâle. Décision prise après une journée cauchemardesque hier.
C'était impraticable. Hein. En plus, avec les patrons qui nous mettent une pression pour livrer un peu des colis inlivrables. On nous a dit de rouler doucement, mais quand on a 180 clients, c'est compliqué. On va se préserver un petit peu.
Inès dit qu'elle a plus de chance. Un employeur assez souple. Elle travaille dans le marketing digital. Aujourd'hui, elle déclenche une journée de télétravail.
Pour éviter tout le monde sur le RER et les galères qui peuvent arriver dues à la neige. Et on reste au chaud.
À Orsay, il faut prendre le RER B, grosse perturbation. Et hier, pas de bus non plus. Salomé est étudiante sur le campus qui dépend de l'université de Paris-Saclay. Elle a reçu un mail de la fac.
Ils ont annulé les cours du matin. Toute la fac est fermée. Le matin, je vais travailler mes cours chez moi. Et puis l'après-midi, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils nous tiendront au courant dans la matinée.
Quant au collège où cette future professeure de sport fait son stage, aujourd'hui, il n'ouvre qu'à 10h au lieu de 8 d'habitude pour donner le temps aux élèves et aux enseignants d'arriver.
Et ce matin, les transports scolaires sont à nouveau suspendus en Île-de-France, en Bretagne, en Charente-Maritime, dans les départements des Deux-Sèvres ou encore de la Vienne. La justice suisse enquête, la justice française aussi. Désormais, le parquet de Paris s'est saisi une semaine après l'incendie en Suisse dans un bar de la station de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes, dont 9 Français, avec aussi 23 compatriotes blessés dans ce feu. L'objectif du parquet, c'est de permettre aux victimes françaises d'avoir un point d'entrée dans notre pays avec la justice helvétique. Et puis ce matin, Aurélien Tirard, on en sait plus aussi sur le couple de propriétaires français de ce bar, notamment sur l'homme qui est déjà connu de la justice.
Oui, selon nos informations, cet homme de 49 ans installé depuis des années en Suisse a été condamné deux fois. La première par le tribunal correctionnel d'Annecy il y a 18 ans pour des faits de proxénétisme aggravé. Jacques Moretti avait pris 12 mois de prison dont 4 fermes. Sa seconde condamnation par le tribunal correctionnel de Bastia date d'il y a 16 ans pour fraude aux APL. Sa femme âgée de 39 ans n'a aucun antécédent judiciaire. Ce ne sera pas à la nouvelle enquête menée en France de chercher d'éventuelles responsabilités du couple. La procureure de Paris le rappelle. Les autorités suisses restent, je cite, compétentes pour enquêter sur le déroulé de l'incendie, elles qui ont déjà entendu Jacques Moretti avant de le laisser libre. L'enquête française permettra de faciliter, si nécessaire, les échanges des victimes avec la Suisse. Le parquet de Paris mobilise également la Fédération France Victimes. Elle proposera un accompagnement psychologique et juridique aux victimes et à leurs familles.
Merci Aurélien Tirard pour ces précisions. Service police-justice de France Info. Une piste est privilégiée désormais après cet incendie mortel à l'hôpital de hier dans le Var. Un paquet de cigarettes et un briquet ont été retrouvés dans le box où un patient septuagénaire a perdu la vie hier. Selon le procureur, le personnel l'avait déjà surpris en train de fumer. La prix Nobel de la paix et opposante vénézuélienne Maria Corina Machado dit vouloir retourner le plus vite possible dans son pays après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. Le président déchu et son épouse qui ont fait hier soir leur première apparition devant la justice américaine, devant un tribunal du sud de Manhattan à New York. Tous les deux ont plaidé non coupables. Gwendal Lavina, vous avez pu assister à cette audience historique pour France Info.
Nicolas Maduro est le premier à entrer dans la salle d'audience, suivi par sa femme Cilia Flores, très fatiguée et amoindrie physiquement. En tenue orange et bleue des détenus, les pieds liés, ils saluent leurs avocats et s'emparent des casques nécessaires à la traduction vers l'espagnol. Face à eux, le juge Alvin Hellerstein, âgé de 92 ans, butera à plusieurs reprises sur des mots. Son rôle, rappelle-t-il, est de garantir un procès équitable. Nicolas Maduro se dit prisonnier de guerre et dénonce l'enlèvement dont il a été victime avec sa femme. Le juge l'interrompt pour l'informer que tout cela sera évoqué lors du procès. Sans surprise, Nicolas Maduro et Cilia Flores plaident non coupables mais ne demandent pas leur remise en liberté. La prochaine audience est fixée au 17 mars. Lorsque le couple quitte la salle, un membre du public interpelle en espagnol Nicolas Maduro et lui dit qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Maduro, le doigt levé vers le ciel, répond qu'il est un homme de Dieu et toujours le président du Venezuela.
Gwendal Lavina, correspondant à New York de France Info. Une réunion de cadrage cet après-midi pour la très médiatique commission d'enquête parlementaire sur, je cite, la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Le président de cette commission, un député Horizon, veut rappeler les règles à ses collègues pour éviter l'instrumentalisation et les dérapages. Les auditions déjà réalisées en décembre, notamment avec plusieurs personnalités de Radio France, ont donné lieu à des passes d'armes tendues, Audrey Tison.
C'est surtout le ton très offensif de Charles Alloncle, le rapporteur UDR, qui a donné lieu à des recadrages de la part du président Horizon de la commission, Jérémy Patrier-Lettus, par exemple pendant l'audition de Patrick Cohen.
Monsieur Cohen, vous semblez vous émouvoir qu'on puisse évoquer certaines affaires judiciaires, c'est votre droit.
Non, attends, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur, ça suffit maintenant. Essayez de ne pas mélanger ou de distiller ici et là des éléments d'une procédure judiciaire.
Mais d'autres élus sont aussi recadrés. Ici, l'insoumise Ercilia Soudé.
On a une Sophia Aram, elle a un humour raciste. Est-ce que c'est davantage cohérent avec la ligne éditoriale?
Madame Soudé, s'il vous plaît. Ici, c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public.
Une attitude qui provoque l'agacement d'autres députés, comme l'écologiste Sophie Taillé-Polian.
Nous sommes des députés, pas des procureurs. Je demande une réunion du bureau en urgence.
Réunion prévue cet après-midi. Le président Patrier-Lettus convoque les principaux participants pour refixer les règles.
Par exemple, le respect des personnes que nous auditionnons, le fait que la commission d'enquête ne se transforme pas en tribunal politique, ni en lieu de la politique spectacle.
Il va notamment demander que soient arrêtés les live tweets, ces extraits vidéo, parfois tronqués, qui sont postés sur Internet pendant une audition.
Audrey Tison sur cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dont, je le rappelle, France Info fait partie. Dans un mois, vous pourrez vivre à nouveau au rythme des JO, dans un mois à pile. Je suis sûr que ça vous a manqué depuis la clôture des Jeux de Paris. Cette fois, ce sont les Jeux d'hiver. De Milan-Cortina en Italie, c'est la troisième fois que nos voisins transalpins accueillent les JO. Et à un mois du début des compétitions, Bruno Duvic, les préparatifs, eh bien, ils ont pris du retard.
Les travaux ne seront pas terminés, loin de là. Selon une étude de l'association Libera, qui se bat pour la transparence dans l'organisation des JO, près de 60% des chantiers ne seront pas achevés. On parle des aménagements routiers et ferroviaires, notamment entre les lieux de compétition. Les implantations sportives, elles, seront prêtes, assure le président de la fondation Milan Cortina. Et oui, cela a été galère, reconnaît Giovanni Malago sur la RAI.
Il y a des excuses valables. En un peu plus de 6 ans, nous avons eu 2 ans de Covid, puis des guerres qui ont sérieusement compliqué la livraison de matériel et surtout ont fait grimper les coûts.
C'est le stade de hockey à Milan qui suscite le plus d'inquiétude. Il doit être inauguré cette semaine seulement. Autre dossier qui fâche les écologistes, la neige artificielle. Il n'y aura pas assez de blanc naturel. Avant Noël, la Fédération internationale de ski craignait en particulier pour la qualité des pistes de snowboard. Problème sur les canons à neige résolu, assurent les organisateurs. Coût total de ces Jeux, plus de 5 milliards d'euros. Pour l'instant, le coût estimé des Jeux d'hiver en France en 2030, selon l'inspection des finances, est de moitié moins.
Merci beaucoup Bruno Duvic en Italie pour France Info. Et je vous rassure, tout est prêt sur France Info pour suivre ces Jeux Olympiques qui commencent dans un mois. Christine Peña, c'est donc l'heure de votre météo. Alors c'est presque les Jeux d'hiver, hein, votre météo.
Exactement.
Il fait bien froid et la neige est un peu partout.
Oui, un petit peu partout. Alors il a beaucoup neigé effectivement. On fait attention au verglas, à la neige qui a gelé. Les sols sont vraiment très très glissants ce matin. Cette neige au sol participe à faire baisser encore un peu plus les températures. Il fait vraiment très froid ce matin, avec parfois jusqu'à moins 10 degrés, notamment du côté de la Normandie. Nous avons moins 10 degrés à Alençon, comme à Millau, à Clermont-Ferrand également, moins 11 à Aurillac, c'est là où il fait vraiment le plus froid. Mais à Paris aussi, hein, nous avons des températures très froides. Autour de Paris, ça peut descendre à moins 7 degrés. Cette neige au sol va tenir, donc il neige encore sur l'ouest du pays, en Charente notamment, mais au fil des heures, le temps redeviendra sec et le soleil reviendra sur la moitié nord, à l'ouest également. Méditerranée, on a un peu de soleil. C'est un peu plus mitigé vers la Corse. Et puis du vent, pas mal de mistral et de tramontane.
Merci beaucoup Christine Peña, il est 5h10.